Alors, j'étais très interpellé par cette parole qu'a dit Christine en parlant d'un feu qui ne doit pas s'éteindre. Et j'ai envie de le redire, de vous inviter, qu'on s'invite à réfléchir. Est-ce que le feu est toujours là dans nos cœurs? Non, pas toujours. Hein. Mais Dieu veut allumer un feu qui ne s'éteint pas, un feu bouillonnant qui ne s'éteint pas. Voilà, réfléchissons et prions chacun vraiment. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, lui, il a tout fait, il a tout préparé pour que ce feu brûle constamment en moi. Quelle est ma part? Voilà, pour que ce feu brûle constamment. Waouh! Oh, ça me bouscule, ça m'interpelle cette parole. Alors voilà, je vous donne le titre de ce message ce matin. Avis de tempête. Recevons les instructions de Dieu. Alors je ne me prends pas pour Monsieur Météo. Vous avez souvent entendu des avis de tempête. On a eu souvent des avis de tempête ces derniers temps à la météo. Finalement, ça, c'était pas grand-chose pour nous, hein, mais ailleurs, oui. Mais voilà pourquoi je donne ce titre. Parce qu'on va entendre ce matin le récit d'une tempête. Le récit d'une traversée périlleuse en mer sous la tempête. Ça se trouve dans le chapitre 27 des Actes. Ne le prenez pas parce qu'on va le lire tout à l'heure. Et comme les traductions sont toutes différentes, c'est beaucoup mieux que d'écouter ce récit. Alors, ce chapitre traite du voyage de l'apôtre Paul en tant que prisonnier vers Rome. Et si vous lisez depuis les Actes, vous verrez que depuis déjà le chapitre 21, Paul est entre les mains des Romains. Alors il comparaît devant le Sanhédrin, puis il comparaît devant le gouverneur Félix. Il reste ensuite en prison à Césarée pendant 2 ans. Puis il comparaît devant le successeur de Félix, Festus. Et devant Festus, pour mieux défendre sa cause contre les accusations des Juifs, Paul en appelle à César. Et c'est là que nous arrivons au chapitre 27. Il est étonnant ce chapitre, parce qu'il est entièrement consacré à cette traversée. Alors que dans les autres chapitres, on parle d'un voyage en 2 versets, et là, 44 versets sur cette traversée. Et si ce chapitre est là dans les Écritures, l'avant-dernier chapitre des Actes des Apôtres, je crois, c'est pour notre instruction. Cette traversée fait mention d'une terrible tempête et j'y vois une volonté de Dieu de nous préparer pour les tempêtes spirituelles, voilà, qu'on a déjà passées, qu'on passera peut-être plus fortes encore, je ne sais pas. Là, je suis pas voyant, mais je suis sûr qu'il y a là des instructions pour nous préparer pour ces temps de tempête. Pour des temps, je dirais, d'ébranlement, où on peut perdre, si on n'est pas accroché, on peut perdre notre foi. Enfin voilà, il s'agit de se préparer. Alors je vais inviter Annette à venir avec moi, on va lire ensemble ce chapitre 27. Donc écoutez, fermez les yeux, laissez-vous embarquer dans le bateau où va être Paul, hein, d'accord? Où est Paul? Embarqué dans ce bateau.
C'est là, alors. Alors, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, CNIL, ou je sais pas, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit.
Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes.
Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit
« Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit « Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. »
La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin et la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats
« Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. »
Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Alors que le jour parut, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant
« C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. »
Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navire. Ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs.
Tous parvinrent à terre, sains et saufs. Waouh. Alors, je vais relever quelques instructions de ce récit. Et je pense que ça peut nous préparer hein, pour les temps de tempête. Alors, première instruction, là vous pouvez prendre votre Bible si vous voulez, hein, maintenant, au verset 10 et 11, il est dit que Paul a averti tout le monde en disant « Mais la navigation, elle ne va pas se passer bien. Il y aura des dommages pour la cargaison, pour le navire, mais nos personnes. » Et le centenier écouta le pilote et le patron plutôt que les paroles de Paul. Paul reçoit une sagesse supérieure au capitaine du navire. Il discerne bien mieux ce qui doit arriver, ce qui va arriver, la tempête, le naufrage, que deux hommes qui se disent pourtant spécialistes. Cela nous rappelle les limites de ceux qui se disent spécialistes. Des spécialistes pour discerner l'évolution du monde, pour résoudre les problèmes majeurs. Et je pense aux plus parfois prétentieux hein, parmi eux, il faut le reconnaître, parmi des politiques, parmi des économistes. Bien sûr, je ne généralise pas. Hein. Mais dans le discernement qu'il avait des événements, Paul ne s'est pas tu. Il avertit tout l'équipage. Est-ce qu'on est conscient que Dieu nous a donné le pouvoir de discerner les signes des temps? Pouvoir de discerner, ouais. Peut-être pas, bien sûr, comme Paul dans sa dimension apostolique, mais quand même, c'est Jésus qui a reproché, je crois, à ses disciples en disant « Vous savez dire qu'il va y avoir du vent parce que le ciel est rouge et vous ne savez pas discerner les temps ?» Ouais, Dieu nous a donné de discerner les temps et il nous a placés comme avertisseurs, sentinelles, veilleurs. Première instruction. Sommes-nous conscients de ce rôle? Nous sommes lumière pour le monde. Bien sûr, à nous de scruter les Écritures, à nous d'écouter la voix du Saint-Esprit. Mais autre chose que je relève là, c'est que Paul, bien qu'il ait donné cet avertissement, n'est pas écouté. On se lamente quelquefois de ne pas être écouté, comme si on était les seuls au monde. Ah, oh, j'ai prévenu, puis on ne m'écoute pas. Comme si c'était la pire des choses, la pire des injustices, mais le grand apôtre lui-même n'a pas été écouté. Le Christ non plus n'a pas été écouté de tous durant son ministère. Alors soyons pas étonnés quand il s'agit de nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, au moment où Paul n'est pas écouté. Notre histoire ne s'arrête pas au moment où nous ne sommes pas écoutés. Et je le dis pour l'Église aussi. L'histoire de l'Église ne s'arrête pas à un moment où on a l'impression qu'on n'a pas été écouté. Et on a jeûné ici pendant deux jours. Merci Pascal de nous avoir entraînés. Merci. Et Robert nous partageait que Dieu lui parlait alors qu'il avait faim, qu'il voyait comme moi d'ailleurs, on était tenté par toute la nourriture. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit que, il nous l'a partagé, que Dieu lui montrait qu'il voyait que beaucoup avaient faim spirituellement. Beaucoup avaient faim et soif. Alors, notre histoire ne s'arrête pas, et l'histoire de l'Église ne s'arrête pas au moment où on a l'impression de ne pas être écouté. Première instruction. Hein. Deuxième instruction. Verset 15, il est dit « Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Donc l'équipage se croyait maître de leur destin. Hein. Mais ils ne pouvaient pas maintenir le navire. Il y avait un vent appelé Orakilon qui le poussait. Et là, on touche un point aussi important. Voilà. Considérez bien la situation. Un homme s'est entêté, le capitaine, avec lui aussi, même le centenier a suivi le capitaine, et tout l'équipage et tout le monde est entraîné. Ils n'ont pas écouté la voix de la sagesse, et Paul lui-même aussi est obligé de subir les effets de la tempête. Est-ce que nous croyons quelquefois, en tant que chrétien, que on est gardé d'essuyer tous les effets des tempêtes? Non. Dieu a son plan. Et Dieu, il permet que, à cause... Bon, il y a des tempêtes qui nous arrivent parce qu'on a désobéi, ça faut le dire aussi. Mais il y a des tempêtes, on a vraiment fait ce qu'il fallait. Et on doit essuyer les effets quand même de la tempête aussi. On pourrait dire sur le moment, ah, c'est injuste, c'est insensé, mais non. Quand on considère le dénouement de l'histoire, non. Dieu avait son plan. Est-ce que je suis d'accord pour comprendre que je peux être amené à essuyer aussi les effets de la tempête à cause de ceux qui sont à côté de moi, qui vont à la dérive, parce qu'ils ont désobéi? Je peux essuyer les effets de la tempête. Mais Dieu a son plan. Dieu a son plan. La tempête, peut-être, dans mon lieu de travail. J'ai connu cette tempête dans mon lieu de travail il y a quelques années. J'ai essuyé les effets de la tempête comme les autres. J'avais averti aussi un moment. Je n'ai pas été écouté. La tempête peut souffler même dans notre famille. Pourquoi dois-je la subir? Et Paul, il n'a pas cherché à fuir. Il aurait pu fuir. Il jouissait d'une très grande liberté. Il y avait le centenier, là, à l'escale, à une escale, il a laissé aller. Tu vas aller voir tes amis, vas-y. Paul aurait pu dire, oh, il ne veut pas m'écouter. Moi, je vais profiter, je vais dire au centenier que je vais aller voir des amis, là, à Beauport. Et puis, tant pis pour César, tant pis, mais je vais sauver ma peau. Ça ne tient pas. Non, non. Il est resté. Il est resté. Il ne s'est pas révolté quand la tempête s'est déchaînée. Et au beau milieu de la tempête, qu'est-ce qu'il a fait? Même si le texte ne le dit pas expressément, on est certain, il priait. Il priait, il se confiait en Dieu. Et alors que tous ont perdu espoir, Paul est le seul, semble-t-il, qui ne le perd pas. Bon, il a dû avoir un moment quand même de trouble, mais il a très vite retrouvé espoir parce qu'un ange lui apparut. Donc, il est le seul, à un moment, qui a espoir. Quand il a cette visitation de l'ange, il comprendra, s'il n'avait pas compris déjà avant, probablement, pourquoi il a fallu qu'il reste présent à côté de tous ses compagnons pendant la terrible tempête. Chers amis, au milieu de la tempête, au milieu des tempêtes ici, nous sommes les seuls qui peuvent apporter l'espoir aux autres. Parce que nous avons le Christ, lumière du monde, le seul chemin qui mène au vrai port. Et Dieu a insisté ce matin, seul, dans des prières aussi, seul, Jésus, le seul chemin, seulement par son sang, seulement par son sang. Troisième instruction, versets 18 et 19. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Cette image est interpellante aussi. La cargaison me parle de toutes les richesses qu'on peut avoir, auxquelles on peut s'attacher. Au beau milieu de la tempête, les marins se rendent compte que la cargaison les encombre. Nos biens, nos petites choses auxquelles on s'attache très vite, ça peut nous prendre, ça peut prendre beaucoup de place. Et en période de tempête, vraiment, ça peut nous encombrer et nous faire échouer, hein, tout près du but. Comme c'est bon de prendre régulièrement des temps de jeûne. Encore une fois, merci Seigneur, hein, à travers Pascal. Oh, je me suis rendu compte, de nouveau en jeûnant, combien je sortais d'un assoupissement spirituel. Je le disais, mais un petit peu le téléphone, puis tout le temps le téléphone quelquefois. Vous voyez le nombre de gens qui sont là sans arrêt. Et nous, quelquefois, chrétiens, on se laisse avoir aussi. Il faut maîtriser. La tablette, l'ordinateur, la TV. Et on perd une sensibilité spirituelle. Et combien, je me souviens, dans des temps de jeûne passés avec les 40 jours, je recevais des rêves, des songes, des révélations aussi dans ces temps. Et ma sensibilité spirituelle, elle revenait, elle augmentait. Ah Seigneur, il y a des choses qui nous encombrent, à tel point que je me dis, il ne faut peut-être pas jeûner une fois par an, hein, mais il faut peut-être renouveler bon, le jeûne de Daniel, mais voilà, mais jeûner de notre ordinateur, jeûner de notre tablette, jeûner de notre radio, de notre télévision, et prendre le temps d'écouter Dieu, prendre le temps de lire sa parole, de méditer sa parole. Le jeûne, j'en suis convaincu, nous prépare aussi pour les tempêtes spirituelles. D'abord, je me demande si je ne me mettrais pas une fois par mois ce petit jeûne de Daniel, hein, deux jours. Bon, voilà, chacun, c'est à chacun de voir, hein, mais je vous encourage vraiment. On veut que le feu y continue d'aller. On le veut. Vous voyez, le Seigneur nous a encouragés mardi. Bon, le Seigneur nous encourage par la présence de Rémi depuis une semaine. Mardi était là. Et à la fin de la soirée, mardi, des jeunes du quartier sont rentrés. C'est comme un clin d'œil, un signe. Vraiment un clin d'œil. Dans ces temps d'avis de tempête, préparons-nous par le jeûne et la prière. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis et les plaisirs de la vie. En plus de la cargaison, les marins comprennent qu'ils doivent jeter les agrès, c'est-à-dire l'équipement du bateau. Même l'équipement, ça c'est incroyable. C'est l'abandon total. Voilà ce que Dieu attend de l'équipage pour le sauver. Et les marins vont découvrir par la suite que seul, encore une fois, seul. La parole que Dieu a donnée à Paul par l'ange va les sauver. Seulement cette parole. Attention, Paul, il ne l'a pas négligé. Hein. Il l'a mis en pratique, hein. Attention. Il l'a mis en pratique. Il a averti un moment, il y en a qui voulaient partir avec le canot de sauvetage. Et non, non. C'était pas évident. Convaincre des gens qui savaient pas nager, de dire, allez, accrochez-vous à une planche et puis laissez-vous porter, c'était pas évident. Mais seule cette parole que Dieu a donnée par l'ange va les sauver. Seulement. Où est-ce qu'on met notre sécurité aujourd'hui? Où plaçons-nous notre sécurité? Nos appuis, nos méthodes peuvent nous paraître solides, nos valeurs, nos traditions, nos relations, notre compte en banque. Mais quand la tempête est là, ils paraissent bien futiles. Seule l'écoute de Dieu est indispensable. Nous sommes les seuls qui pouvons redonner l'espoir parce que nous avons la parole de Dieu. Nous entendons la voix du berger, celui qui domine sur le monde, sur les vents et les tempêtes. Il nous faut faire entendre notre voix, porte-parole de sa voix. Quatrième instruction, encore deux et c'est bon. Verset 23, il y a cette parole touchante que Paul reçoit de l'ange. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oh là là, ça c'est beau. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ah, ça nous envoie en mission là. Paul s'est identifié à tous ses compagnons à la dérive qui avaient désobéi à Dieu. Il s'est tenu sur la brèche pour eux, il intercédait pour eux. Il ne pensait pas qu'à lui sur le bateau. Quel magnifique exemple d'abnégation, de consécration. Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu nous place quelquefois au beau milieu d'une tempête qui souffle? Mais Dieu nous donne cet enseignement pour nous préparer aussi à des futures tempêtes, pour que nous ne tombions pas dans la révolte, dans la lamentation, qu'on ne cherche pas à fuir ou à penser qu'à nous-mêmes, mais qu'on plie les genoux, qu'on prie avec ferveur pour tous ceux qui sont à la dérive à côté de nous. À nous aussi, Dieu dit, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi, tes voisins, tes collègues de travail, ta famille, bien sûr, en premier. Hein. Partout où nous sommes en mission. Partout où nous sommes en mission. Et enfin, j'arrive à la dernière instruction, au verset 30, et aussi au verset 34 et 35. Vous pouvez regarder. Comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, Paul parla aux centeniers, aux soldats. Des marins doutent encore. Ils doutent encore de la parole de Dieu donnée à Paul. Et ils cherchent à s'échapper sur ce qui restait encore de l'équipement, un canot de sauvetage. Hein. Et la parole de Dieu est claire. Tous doivent rester dans le navire jusqu'au bout, jusqu'à ce que le navire s'échoue sur une île, sur un langue de sable, je ne sais plus exactement. Hein. Et les soldats suivent les instructions de Paul et laissent échapper les canots pour que personne n'y monte. Hein. Sans l'intervention de Paul, ces marins auraient été morts. Hein. Et donc là, nous sommes dans le récit, dans le jour qui précède le naufrage. Donc il y a encore des doutes chez quelques-uns. C'est un moment extrêmement difficile à passer. La foi de certains peut encore flancher. Et malgré les paroles d'encouragement de Paul, malgré le fait qu'il ait mentionné la visite de l'ange, qu'est-ce qui va les calmer? Qu'est-ce qui va leur donner la paix? Paul savait que c'était dur de convaincre tout le monde. Il dit, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, mais il prie du pain. Il prie du pain et remercia Dieu. Waouh! Et il est dit là, tous ont repris courage. Parce que Paul, dans sa façon de prendre le pain, et dans ce calme et cette paix qui était là, je pense que les dernières craintes se sont envolées. Ils ont été touchés par le fait que Paul a remercié Dieu devant tous. Quelle puissance! Quelle puissance dans ce geste accompagné de ces paroles de reconnaissance! Quelle puissance nos vies, si au milieu des tempêtes, elles manifestent cette solidité spirituelle, cette paix, ce calme, cette reconnaissance envers Dieu. Quelle puissance si nos gestes sont accompagnés de paroles qui traduisent notre confiance en Dieu. Ce Dieu qui garde le contrôle de toutes choses, de tous les événements, de toutes les tempêtes. Tous reprennent courage. Psaume 50, verset 15, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Je me souviens, c'est un verset que j'ai reçu dans un moment de tempête dans l'école où je travaillais. J'ai reçu ce verset parce que je n'ai pas toujours été très calme. J'ai quelquefois un petit peu, je le reconnais. Mais bon, j'ai eu ce verset, offre, ne te plains pas. Un moment où j'étais dans la plainte et puis il y en a un qui m'a repris, Jean-Luc, arrête de te plaindre un petit peu. C'était comme un réveil, quoi. J'ai dit, oh là, je suis à côté de mon témoignage. J'ai eu ce verset, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Offrons constamment la reconnaissance. Là où tu es en travail, dans la difficulté, dans la tempête que tu subis, montre ta reconnaissance. La force de Lydie, quand elle, dans sa maladie, elle était dans la reconnaissance. Quelle force, ce témoignage, c'est vrai, non mais... Ouais. Quelle force. Dieu a tout en contrôle. Il y a quelque chose à nous apprendre de toute façon dans les épreuves, les tempêtes. Il forme notre caractère pour qu'on ressemble à Christ. Les marins voyaient Christ, je pense, à travers Paul. Et nos contemporains vont voir Christ à travers nous. Notre calme surnaturel. La grâce de Dieu, il n'y a que la grâce de Dieu pour faire ça. Hein. Et si vous lisez le chapitre suivant, vous allez voir vraiment toute la bénédiction encore sur tout cet équipage, puisqu'ils arrivent dans une île avec des barbares qui manifestent une bienveillance extraordinaire envers eux. Voyez donc ce résultat. Tous parvinrent à terre, sains et saufs. Verset 44. Grâce à la fidélité d'un homme qui mettait sa sécurité en Dieu et en sa parole avant tout, et soucieux de la mettre en pratique. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Apprenons à recevoir la parole de Dieu en période de tempête. Et à nous appuyer sur elle essentiellement. Comme Paul aussi, et aussi, je termine avec ces deux versets-là, comme les Thessaloniciens, c'est un verset que j'ai reçu mardi pendant le jeûne, à qui il a écrit dans la première épître. Il a, au verset 6, il est dit que ces Thessaloniciens ont reçu la parole au milieu des tribulations. Au milieu de leur tempête à eux, ils ont reçu la parole. Et ils se sont appuyés uniquement sur cette parole, au milieu des tribulations. Et il est dit un peu plus tôt, au verset 2 et 3, Paul dit, nous rendons continuellement grâce pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la tribulation, dans la tempête à eux, les Thessaloniciens ont progressé dans leur foi, ils ont progressé dans leur amour, ils ont été fermes et solides spirituellement. Oui, 1 Thessaloniciens, versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Ouais. Alors, c'est le même esprit qui les a soutenus, qui nous soutient. Pourquoi il n'en serait pas pour nous de même? D'accord? Pourquoi il n'en serait pas pour nous de même? Je veux croire de tout mon cœur que nos vies, mais pas seulement nos vies, que l'Église, source de vie, sera une Église qui va progresser dans la foi, qui va progresser dans l'amour et qui sera solide dans les tempêtes, s'appuyant sur la parole de Dieu, que de paroles reçues mardi soir, hein, la mettant en pratique, témoignant de sa paix, de son calme surnaturel, rendant grâce à Dieu et apportant l'espoir autour d'elle. Waouh ! On y croit ? On y croit. Matthieu 7, versets 24 et 25. Et je termine vraiment avec ça. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc de Jésus et de sa parole. On va prier ensemble, d'accord? Je vous invite à vous lever, puis je vais juste prier. Hein, voilà. Ah, Seigneur, à chacun de nous, ce matin, tu poses la question. Mon enfant, où places-tu ta sécurité en ce moment? C'est moi seul et ma parole qui sont le seul fondement solide, capable de te garder debout dans la tempête. En moi et en ma parole, tu as un appui ferme. Veux-tu bien, mon enfant, te débarrasser de tout ce qui t'encombre? Est-ce que tu veux bien te débarrasser de tout ce qui t'encombre et qui t'assoupit peut-être spirituellement pour que tu sois capable d'entendre ma voix et d'être ce veilleur, cette sentinelle pour guider? C'est le troisième verbe de notre vision, guider. Pour apporter le salut, redonner l'espoir à ceux qui naviguent à côté de toi. Je renouvelle en toi, dit le Seigneur ce matin, mon appel à être ce témoin fidèle, mon porte-parole dans ce monde en détresse. Amen. 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 Amen.